Vous l'avez entendu dans les manchettes régionales, on doit vous rappeler que les choses ont évolué depuis ce matin, depuis qu'on a enregistré la manchette dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, la ministre Marie-Ève Proulx qui a remis sa démission. Donc, voilà l'information. Elle est maintenant à jour, évidemment. Des auditeurs qui nous écrivent au 25226, qui nous disent, les gars, vous devez parler de la grève des employés de soutien aujourd'hui dans les commissions scolaires. Mettez-en qu'on va en parler. On y revient tantôt. J'ai eu des courriels la semaine passée de profs, de parents, en fait, dont les enfants fréquentent des écoles de la commission scolaire des Premières Seigneuries. Ici à Québec, j'ai échangé avec des profs de la commission scolaire de l'énergie en Mauricie. On y revient, effectivement. On va suivre ça de très, très près. Autre chose très, très importante, c'était très, très, très attendu depuis plusieurs mois. Le rapport Laurent concernant la DPJ, le rapport donc de la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, Jonathan, le rapport qui a été déposé hier, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans, notamment de créer un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. On semble vouloir axer beaucoup aussi sur la prévention en matière de respect des droits des enfants. On va aller la retrouver, elle est la présidente de la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse, Madame Régine Laurent. Madame Laurent, bonjour.
Bonjour à vous deux.
C'était toute une tâche, hein, Madame Laurent. Essayez de nous résumer un peu le principal de ce rapport-là. Qu'est-ce qui vous tenait le plus à cœur, disons? Qu'est-ce que vous vouliez passer comme message avec ce rapport-là?
Vous avez raison. Le mandat que nous a confié le gouvernement, c'est un mandat qui était très, très, très large. Alors, le défi, c'était d'organiser le mandat au départ, parce qu'il nous demandait de regarder dans tous les réseaux, éducation, DPJ, santé, tout ce qui tourne autour de l'enfant et de la prise en charge des enfants et des familles, pour faire des constats, qu'est-ce qui fonctionne pas et quelles solutions on pouvait apporter. Alors, en ce sens-là, c'est énorme. Et ce qu'il faut voir, il faut voir le rapport comme un tout, et c'est comme une espèce de projet de société pour les enfants qu'on propose. Alors, c'est pour ça que vous avez parlé en introduction d'un commissaire au bien-être et aux droits des enfants, parce que ça prend une autorité qui va faire exercer une vigie sur l'état de bien-être de nos enfants. Être capable de voir et de nous dire à la population de façon transparente, telle politique qui a été mise en place, oui, ça a un effet bénéfique sur le bien-être des enfants. Telle autre politique ou réglementation, il y a des lacunes. Et voici les effets négatifs sur les enfants, il faut le corriger. Il faut être capable aussi de voir que ce commissaire-là va s'adjoindre à un groupe de jeunes, parce que les jeunes nous ont dit, donnez-nous la parole, on a des choses à dire, c'est notre avenir. Alors, il va y avoir un comité consultatif de jeunes qui vont l'aider dans sa tâche et lui dire, voici ce que les jeunes ont besoin, voici comment nous rejoindre, voici comment on veut être entendu. Et aussi, il y a quelque chose de très important, ce commissaire va aussi avoir la tâche de développer puis de mettre sur pied un mécanisme d'accréditation pour les avocats qui sont désignés pour représenter des enfants. Et ça veut dire de la formation, ça veut dire une déontologie particulière. Puis quand je dis formation, par exemple, d'avoir suivi une formation sur les différents stades de développement, qu'est-ce que ça veut dire des problèmes d'attachement, pour être capable d'être vraiment dans un rôle conseil pour l'enfant. Alors, c'est énorme la tâche du commissaire.
Madame Laurent, le déclenchant de cette commission-là aura été la tragédie épouvantable là, qui a amené la mort de la jeune fille martyre de Granby, qui a marqué tout le Québec. Oui. Je comprends que vos travaux ne visaient pas à comprendre ce qui s'était passé dans un cas spécifique, mais il reste que c'était l'élément déclenchant, ce qui avait fait en sorte qu'on s'était tous dit qu'il ne faudrait plus jamais qu'un événement comme celui-là se reproduise. Et hier, vous avez dit qu'il ne fallait pas compter que sur les DPJ pour enrayer à elles seules la détresse et la souffrance des enfants. Vous avez aussi parlé notamment de la prévention.
Oui.
Est-ce que dans un cas comme celui de la jeune fille martyre de Granby, est-ce que la prévention, par exemple, aurait pu changer les choses, ou à un moment donné aussi, il faut accepter qu'il y avait des problèmes de structure ou de signaux qui n'ont pas été détectés, ou de la mission même de la DPJ qu'il fallait revoir aussi?
Prenons un cas fictif, parce que je veux pas parler, et j'ai pas le droit de le faire non plus, de la petite de Granby. Mais prenons un cas très, très fictif. J'accouche. Et j'ai, par exemple, des problèmes de consommation. C'est ma cousine, donc quelqu'un de la famille élargie, qui prend en charge, la DPJ remet le bébé à ma cousine. Dans la loi, actuellement, quand c'est un bébé, de 12 mois, il y a de moins de 2 ans, les parents ont 12 mois pour se replacer. Ça veut dire que moi, là, qui ai un problème de consommation, j'ai 12 mois pour me reprendre en main. Et après ça, il faut qu'on ait ce qu'on appelle un projet de vie stable pour mon bébé. Donc, ça veut dire que en ce moment, selon la loi, après 12 mois, si je me suis pas reprise en main et que je suis pas apte encore à assurer les soins et le développement de mon bébé, ben normalement, c'est ma cousine qui devrait en avoir la charge et après ça, on va régler les affaires de visite, etc. Mais l'enfant devrait rester là.
OK. Mais...
ce que ça veut dire, c'est pour ça qu'on demande un changement à la loi. Parce que les délais existent dans la loi, mais on s'est rendu compte dans l'étude de dizaines et de dizaines de dossiers, souvent ces délais ne sont pas respectés. Souvent, donc ça veut dire que l'enfant reste dans l'instabilité. Après 2 ans, ben on va peut-être faire un essai, retourner chez la maman, mais après 3-4 mois, on se rend compte que je suis retombé dans la consommation. On retourne l'enfant, mais il sera peut-être pas retourné chez ma cousine. Peut-être qu'on va l'envoyer dans une autre famille d'accueil. Alors, c'est ça qu'on veut éviter en disant que, dans l'exemple que je vous donne, après 12 mois, le DPJ a l'obligation d'aller devant un juge et de dire « cet enfant-là est placé sous tutelle de la cousine de madame et tous les droits doivent être exercés par la cousine. » Ou cet enfant-là est peut-être mis à l'adoption.
Mais c'est ça, parce que c'est important ce que vous dites là, Mme Laurent. Je pense que c'est le cœur de ce qui préoccupe les Québécois. C'est qu'on, ce qu'on veut, c'est mettre fin au barouettage de ces enfants-là. Ça,
oui, parce que il faut voir l'impact de ça. C'est un enfant qui est changé de plusieurs fois de famille d'accueil. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant-là? Un, il a plus confiance dans aucun adulte. Après ça, on se dit, ben comment ça se fait qu'il y a des problèmes de comportement? Ben oui, mais il réagit à ce qu'on est en train de lui faire vivre. Après ça, on se dit, ben là, il y a des problèmes de comportement, on va le médicamenter. On regarde pas les traumatismes que ça veut dire pour un enfant de vivre ça. Et quand on parle des troubles d'attachement, c'est quelque chose qu'ils vont traîner quasi toute leur vie. Alors, c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, comme je dis, il faut prendre fait et cause pour l'enfant, pour l'intérêt de l'enfant. À un moment donné, il faut tirer une ligne.
Parce que dans les recommandations, il y a la notion de consulter davantage l'enfant, que l'enfant ait son mot à dire, ce qui, évidemment, tombe sous sens. Mais les jeunes poupons, là, ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas avoir leur mot à dire. Et on sait que dès un très jeune âge, justement, ça peut avoir des impacts au long cours. Donc, comment s'assurer que l'intérêt de l'enfant va être vraiment pris en considération, même s'il peut pas exprimer ses besoins?
Alors, dans l'exemple, si je poursuis, un bébé, c'est sûr, ça parle pas encore, mais c'est pour ça que on veut donner la responsabilité, l'imputabilité au DPJ, après ce 12 mois, de lui s'occuper de la stabilité de l'enfant. Ou il s'en va à l'adoption, ou il est sous tutelle. Alors, c'est ça que ça veut dire, les modifications qu'on apporte. Et un enfant de 4 ans, là, il y a des outils qui existent pour être capable de libérer leurs paroles, ce soit par des dessins, par des jeux. Il y a des façons, il y a des outils très intéressants qui existent pour aller chercher qu'est-ce que l'enfant est en train de vivre et d'avoir une discussion à son niveau, avec son langage sur voici ce qu'on pourrait faire. Comment tu vois ça, toi? Ça te fait vivre quoi quand on dit ça par rapport à une autre orientation? Mais ça, il faut vouloir le faire. Il faut vouloir mettre le temps. Mais pour moi, c'est nécessaire de prendre ce temps-là parce que c'est l'avenir. Et les jeunes nous ont dit, et moi, là, personne n'a jamais demandé mon avis. On me disait, bon, ben dans une semaine, tu vas être placé à telle place. Mais tu dis, ben voyons donc. Puis ils nous ont dit, on est les meilleurs placés, c'est notre vie. Pouvez-vous au moins nous entendre? Pouvez-vous au moins écouter notre parole? Puis nous disait, on vous dit pas de faire tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'on peut au moins discuter de mon avenir à moi, de ma vie à moi?
Vous avez évoqué l'adoption, là, puis plus précisément sur l'adoption. Je comprends que ça peut faire partie là maintenant que ça va être plus présent peut-être dans les solutions possibles. Mm-hmm. Mais précisément là-dessus, l'adoption, est-ce que ça va être plus facile pour des parents qui veulent d'adopter un enfant qui vit ici au Québec, OK? Puis j'ai rien évidemment contre l'adoption internationale, mais souvent j'ai entendu souvent des histoires, Mme Laurent, de familles d'accueil ou de gens qui ont, tu sais, qui ont passé 2-3 ans avec un enfant qui crée un attachement, qui aurait voulu adopter, qui n'ont pas pu le faire. Précisément sur l'adoption, est-ce que ça va être plus facile?
Ben en tout cas, ça va être plus rapide, comme on l'indique dans le rapport, par différentes mesures. Et quand je parlais tantôt de la stabilité affective d'un enfant, la stabilité affective doit être prise en compte et c'est primordial. Donc, il faut accélérer. L'autre partie, quand on parle de l'adoption, il y a aussi une forme d'adoption qui existe ailleurs et qu'on dit qui s'appelle l'adoption simple, disons. Est-ce que ça veut dire que, ça c'est des jeunes qui nous en ont parlé aussi, qui nous disent, moi là, à 12 ans, ma famille d'accueil aurait voulu m'adopter, mais c'est comme si ça me demandait de renier mes parents. Mmh. Or, il y a une forme d'adoption où la famille adopte l'enfant, a tous les droits, les obligations, les pouvoirs sur l'enfant, mais l'enfant n'est pas obligé de couper tous les liens avec sa famille biologique. L'enfant va garder le choix d'avoir ou non des liens avec ses parents biologiques, même si les parents n'ont plus aucune obligation, aucun pouvoir. Alors, c'est moins déchirant pour l'enfant quand on lui explique qu'est-ce que ça veut dire l'adoption. Il sera moins déchiré parce qu'ils nous disent, on a le sentiment de renier nos parents. Puis ils nous disent, même si je sais que mes parents n'étaient pas adéquats, mais ça reste mes parents. Il y en a d'autres qui disent, moi là, j'aurais voulu que ça aille plus rapidement puis que je coupe tout lien avec mes parents biologiques. Donc maintenant, il y a ça qui existe en plus de la tutelle.
J'ai la chance de connaître personnellement, et on a beaucoup d'auditeurs aussi qui travaillent pour la DPJ. Ils trouvent ça très, très, très difficile depuis quelques années. Ils ont l'impression d'être souvent pointés du doigt alors que c'est davantage un système, une structure, bon, une opacité qu'on devrait blâmer. Mais vous parlez de leurs conditions de travail. Je pense qu'ils vont être contents, d'entendre qu'on reconnaît ces difficultés-là. Mais juste sur le constat, Madame Laurent, est-ce que vous êtes à même d'affirmer que les conditions de travail, le manque de ressources, le trop grand nombre de dossiers, etc., peut avoir nui à des enfants dans leur cheminement, dans leur accompagnement? Est-ce que vraiment on est en mesure de faire un lien entre des enfants qui ont pu... Puis je veux pas parler juste des cas les plus extrêmes, par exemple, d'enfants qui sont assassinés, mais juste du mauvais traitement, etc. Est-ce qu'on peut faire un lien de cause à effet?
Mais c'est clair, parce que les intervenantes, là, quand elles sont débordées, puis on a eu beaucoup, beaucoup d'intervenantes à travers les forums qu'on a fait partout au Québec, ce qu'elles nous disaient essentiellement, moi là, quand j'ai plus le temps, parce que je suis débordée, d'aller dans la famille d'accueil, voir comment est l'enfant, quand j'ai plus le temps d'avoir un moment avec l'enfant pour être capable, dans la confidentialité avec l'enfant, de vraiment évaluer comment il va, est-ce qu'il est bien dans son milieu. Et elles nous disent, ben c'est sûr que je ne pratique pas selon les règles de l'art. Et elles savent très bien, et elles le disent, que ça a un impact sur les enfants. Ça a un impact sur les familles. Donc, c'est pour ça que dans le rapport, on dit arrêtez de donner un espèce de chiffre magique, là, que vous allez avoir tel nombre de cas. Ça se peut qu'il y en ait moins de cas parce que elles ont des cas des plus complexes. Une autre intervenante peut avoir plus de cas parce que c'est moins complexe. Alors, c'est tout ça et il faut comprendre que les conditions d'exercice des intervenantes, c'est intimement lié à leur capacité de prise en charge des familles, de prise en charge des enfants. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un chapitre particulier sur les intervenantes, sur la nécessaire formation, l'accompagnement clinique. Des jeunes nous disaient, moi, je suis sortie de l'école, oui, j'ai eu un petit bout, mais après ça, on m'a dit, ben voici ton nombre de dossiers. J'ai pas de rencontre d'équipe clinique pour discuter de cas des plus complexes, pour être épaulée. J'ai plus de lieu où je suis capable d'avoir, quand j'ai un trop-plein, quand j'ai eu trop d'émotions, quand j'ai eu des familles en crise, pour être capable de me libérer tout ça. Puis elle nous dit, après ça, vous êtes étonnés quand on vous parle de fatigue, de compassion. Alors, c'est important, les intervenantes, et c'est important de les attirer, c'est important de les retenir, mais c'est surtout important de leur donner des bonnes conditions, parce que des bonnes conditions d'exercice, c'est des bonnes conditions pour nos familles, pour nos enfants.
En terminant, Madame Laurent, je regarde les réactions à votre rapport, c'est que du positif. Je ne lis que du positif. Les groupes de défense des enfants ont l'air très très satisfaits des recommandations, mais la crainte, c'est toujours qu'un rapport comme ça, ou surtout aussi étoffé que ça, soit tabletté. Qu'est-ce qui s'en vient? Allez-vous faire un suivi? Je pense que la volonté politique est là de changer les choses, mais des fois, c'est dans la machine que ça que ça bloque. On a déjà été échaudés là-dessus. Quelles sont les garanties que tout ça va être appliqué, ce qu'il y a dans le rapport, Madame Laurent?
Écoutez, je comprends très bien le scepticisme. Moi, personnellement, et l'ensemble des commissaires, notre travail est terminé. On nous avait nommés pour faire une commission d'enquête. On l'a fait. On a déposé le rapport au gouvernement. Maintenant, il y a quand même des signes encourageants. Quand j'ai lu, je pense que c'est hier soir, j'étais en entrevue, on m'a lu ce que le premier ministre avait mis sur sa page Facebook où il va tout faire. Moi, je pense aussi que la population, parce que c'est un projet collectif, la population n'acceptera pas qu'on ne fasse rien. Ouais. Parce que je pense que les gens ont compris que de ne rien faire, c'est d'aller dans un mur. Et on ne pourra pas accepter comme société de laisser faire puis de pas prendre soin des enfants qui ont besoin de nous, qui comptent sur nous, puis de pas soutenir les familles. Donc, moi, j'ai bon espoir. Évidemment, c'est très ambitieux, notre projet de société. Donc, il faut échelonner les changements, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut effectuer ce virage-là.
Madame Laurent, merci beaucoup. Bravo pour votre travail, puis au plaisir de se reparler. Merci.
Merci à vous. Bonne journée. Merci.
Régine Laurent, donc, qui a présenté hier le rapport très, très attendu de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Les réactions sont à peu près unanimes. Jonathan, là, ce n'est que des réactions positives, mais c'est ça. Faudra voir dans l'application. Puis, je suis d'accord avec elle, la population acceptera pas que ça change pas.
Non, c'est ça.
Puis, je pense que la volonté politique est là. Mais faut que la machine collabore aussi.
Puis malheureusement, il n'y a pas de baguette magique non plus. Hein. On peut pas jour au lendemain dire on faisait X, maintenant on va faire Y et il n'y aura plus de problème. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de changements, ça va prendre du temps. Puis probablement qu'il y a encore des fois des cas qu'on échappera, mais il faudra au long cours qu'on voit un changement dans la dynamique, là, dans les témoignages. Puis je sais qu'il y a des gens qui nous écrivent. D'ailleurs, je suis supposé de parler aujourd'hui avec une mère de famille qui a vécu un cas positif avec la DPJ. Il y a des dossiers qui se passent bien. Mais bref, ça va prendre plusieurs changements. Puis, tu sais, Jérôme, j'ai tendance des fois à être un peu réticent aux nouveaux mots, là, tu sais, aux nouveaux jargons. Là.
Wow.
Mais hier, je ne sais pas ça quand Mme Laurent parlait de recommandation. Ouais, dans le sens qu'on est habitué que ce soit des recommandations, mais là, c'est pas juste une recommandation, c'est qu'il faut qu'il y ait l'action qui vienne avec. Là.
Mais c'est parce que je te rejoins, tu sais, je veux dire, c'est un mot, là. Il faut l'appliquer. Il suffit pas d'inventer le terme.
C'est ça, c'est ça.
Faut que ce soit appliqué. Puis dans la machine, des fois, ultra syndiqué, c'est pas toujours facile, mais il faut donner la chance. En tout cas, ça, c'est clair, il faut donner la chance aux coureurs avec ce rapport-là. On s'arrête déjà 10h43. Vous êtes dans Trudeau-Landry, 25226 pour nous joindre.